Eh bien, salut tout le monde, c'est un petit podcast à l'arrache avec Narcy Monel et moi-même sur le thème de les univers profonds en jeu de rôle. Voilà, écrire et comment les écrire, comment les lire, comment les jouer. Et voilà, c'est totalement à l'arrache, hein, c'est vraiment un format à la cool. Et on va commencer peut-être par se présenter et du coup savoir un petit peu d'où on parle. Avant de cette présentation, je vais juste préciser que la vision de ce podcast est assez modeste, c'est-à-dire que on va présenter notre point de vue, notre expérience, nos goûts. Et je pense pas dire de bêtises en disant que voilà, on parle juste pour nous-mêmes et on n'a pas vocation à dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça la meilleure recette. C'est juste voilà notre position perso. T'es d'accord avec moi?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Yes. Eh bien, Narcy, est-ce que tu veux bien te présenter et voilà un peu nous dire d'où tu parles, quoi?
Alors, bon, c'est toujours un peu un exercice compliqué, hein, de dérouler son CV.
Montre-nous une photo de ta bibliothèque de jeux de rôle, Narcy.
C'est ça, exactement, exactement. Non, moi, je joue depuis 2014, hein, parce que je sais que ça la fout bien de donner son ancienneté. Donc ça fera bientôt 10 ans. J'ai surtout une expérience de joueur, assez peu de créateur, hein, parce que je n'ai jamais créé de jeu de rôle. J'ai surtout joué à beaucoup de one shot, j'ai fait quelques campagnes. En tant que MJ, j'ai surtout maîtrisé Deadlands Reloaded et Vampire V20, la mascarade. En tant que, je ne vais pas dire expertise, mais en tant que spécialité, effectivement, j'ai plutôt des bonnes connaissances dans le post-apo, dans le monde des ténèbres, et dans Warhammer 40 000, principalement. Voilà, je m'intéresse au lore, je m'intéresse aux jeux à secret, et actuellement, si je suis quand même en train d'essayer de créer quelque chose, mais c'est un exercice compliqué. Parce que j'essaie de créer un système pour vampire, justement. Voilà. Voilà. Ah, Thomas, vas-y, je t'en prie, hein.
Ouais. Eh bien moi je m'appelle Thomas, je fais du jeu de rôle depuis trop longtemps. Un peu le d'où je parle en fait, enfin qu'est-ce que je mets à contribution dans le podcast là? Bah, c'est premièrement que j'écris moi-même un univers de jeu de rôle qui s'appelle Milvaux, qui est un univers post-apocalyptique forestier. Donc je suis dessus depuis 18 ans. Et c'est donc, je pense que ça rentre dans le type d'univers dont on va parler, c'est-à-dire les univers profonds. Après, même si je pense pas que ce soit aussi dense que, par exemple, le monde des ténèbres, dont peut-être tu vas nous parler un petit peu plus en détail, Narcy, mais bon, ça commence déjà à atteindre une certaine masse critique qui fait que on peut dire que c'est un lore profond, même si ça aura jamais la taille d'un univers écrit à plusieurs mains, comme c'est le cas par exemple de Vampire ou de pas mal d'univers du commerce. Et puis bon bah également je fais un petit peu de théorie du jeu de rôle, enfin j'ai fait beaucoup d'articles de réflexion. Maintenant je suis plutôt de la vulgarisation, c'est-à-dire développer enfin réexpliquer des concepts et plus trop en inventer. Voilà. Cette présentation était déjà beaucoup trop longue, donc maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc grosso modo, l'idée c'est que ça va être un échange entre nous deux, toi plutôt en tant que, on va dire, consommateur, enfin avec des grands guillemets, hein, mais en tant que découvreur d'univers profond, en tant que joueur, MJ, lecteur, et puis moi plutôt en tant que auteur, quoi. Donc on va partager nos expériences, nos points de vue de ce point de vue. Et j'ai découpé un petit peu la poire en trois. On va d'abord parler de l'exhaustivité de ces univers profonds, qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, de comment on les explore par le jeu, et ensuite comment on fait pour équilibrer un petit peu, notamment par rapport à la taille, à la masse critique, comment on fait pour amener ça dans la narration. Et donc, on va commencer tout de suite par l'exhaustivité. Donc, en fait, dans. Tout d'abord, concernant l'exhaustivité, ça veut dire qu'est-ce que, à quel point on va mettre des détails. Et si tu veux, dans un univers de jeu de rôle, je ferai la distinction entre ce qui est original. Par exemple, dans Trip to Sky, il y a des îles qui flottent dans l'air. Les fantômes vivent la tête en bas. Enfin, c'est un truc qui c'est pas comme dans la vraie vie entre guillemets quoi. Il y a quelque chose d'original quoi. Bon après il y a plein d'autres univers où il y a des mondes flottants et tout. Mais voilà, j'appelle l'originalité quelque chose qui ne ressemble pas à la réalité quoi. Et puis il y a plein de trucs. Qui sont tout à fait banaux, classiques, c'est-à-dire que dans les villes de Trip to Sky, ben, y a des habitants, y a des maisons, des bateaux, des charpentiers, tout un tas de trucs. Et donc, en fait, on va voir des jeux où on va te présenter les villes en te disant « Dans cette ville, il y a 40 000 habitants, il y a un bourgmestre, il y a un conseil de la ville, il y a des corporations, la rivière s'appelle comme ceci, le pays s'appelle comme cela, tout ça, machin. » Et d'après toi, est-ce que c'est intéressant en fait, de mentionner ces choses-là qui ne sont pas originales, qui sont des choses purement factuelles, qui vont un petit peu peupler le monde? Où est-ce qu'il faut se concentrer uniquement sur ce qui est original dans l'univers, ce qui n'est pas comme dans notre réalité, et puis laisser un petit peu les détails techniques, type le nombre d'habitants dans les villes, type la distance en kilomètres entre deux villes, et ainsi de suite. Est-ce que ça, il faut juste le laisser à l'imagination de la table?
Alors, moi j'ai plusieurs exemples en tête là, qui me viennent à l'énoncé de la question. Je vais essayer de les exposer rapidement. Moi, je vais faire un peu une réponse de Normand. Je considère que les deux sont importants. Voilà. Désolé si je break la question. Moi, j'ai un côté un peu personnellement en tant que MJ, même en tant que joueur, j'ai un côté un peu pointilleux là-dessus et j'aime bien avoir des notions structurelles, des notions carrées. Savoir effectivement, comme tu le disais, combien il y a d'habitants. Avoir les bons principaux et en même temps je trouve que l'un n'exclut pas l'autre. Donc je considère aussi qu'avoir des éléments originaux qui se glissent dans tout ça est aussi intéressant. Un exemple justement qui me vient en tête là actuellement, c'est tu parlais des villes. Par exemple dans le monde des ténèbres, notamment dans Vampyr, les anciennes éditions, hein, pas en V20, en V3, en V2, etc. Ils avaient des by night. Donc les by night, en fait, ce sont des décors de campagne qui prennent pour lieu d'action une ville. Et ouais, dans les by night, en général, la structure est quasiment toujours la même. Tu vas avoir une première partie sur l'histoire de la ville, l'histoire réelle de la ville, hein, parce que le monde des ténèbres s'enracine dans notre réalité. Tu vas avoir une deuxième partie géographie où ils vont commencer à mettre des éléments de leur spécifique, c'est-à-dire quel vampire est dans quel quartier, quel clan de vampire est dans quel quartier. Troisième partie, c'est les PNJ. Donc avec une carte relationnelle, le background des PNJ, leur fiche de perso. Et quatrième et cinquième partie, ça va être les accroches et les conseils compteurs. Pour moi, le mieux, effectivement, c'est de faire les deux. C'est-à-dire d'avoir les deux éléments. Je dirais que l'un n'exclut pas l'autre, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a d'autres exemples, hein, dans des Genesis, un univers post-apo punk. Enfin, punk, c'est du primal punk, évidemment. Ils sont beaucoup plus sur une narration qui met plutôt en avant les éléments originaux avec très peu d'éléments concrets. Et je trouve que c'est un peu light, justement. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment mettre les éléments spécifiques. Dans Numenera aussi, c'est juste des accroches. C'est-à-dire qu'en réalité, on vous donne des noms de villes avec, voilà, dans cette ville, il y a ça de spécifique. Donc, Genesis et Numenera semblent choisir plutôt le fait de mettre en avant plutôt les éléments originaux. Et moi, je trouve que ça va manquer de concret, genre que ça va manquer de prise réelle, en fait. Même si c'est dans le domaine de l'imaginaire, hein, c'est-à-dire que moi, même si c'est dans le domaine de l'imaginaire, j'ai besoin de m'appuyer sur des chiffres, sur des notions carrées, sur des noms de personnages, s'il y a une image, c'est même encore mieux. Donc moi, j'exclurais pas l'un et l'autre. Moi, j'aime qu'il y ait les deux, en fait. Voilà. Toi, vas-y, je t'en prie.
Moi, en tant qu'auteur, si tu veux, je suis plutôt, en fait, je suis plutôt à faire focus sur l'originalité pour plusieurs raisons. Déjà, la première, en fait, c'est j'ai un peu une sorte de leitmotiv qui est de ne pas mettre de chiffres dans l'univers, quoi. En fait, je trouve toujours très très casse-gueule de dire la ville compte tant d'habitants, il y a tant de journées de marche entre deux endroits. Et ainsi de suite, parce que tu cours le. Enfin, en tant qu'auteur, j'ai l'impression de courir le risque que mes chiffres soient ridicules, soient pas crédibles, en fait. Ou en fait nuisent d'une certaine façon à la vision que la table sphère de l'univers. Donc j'évite autant que faire se peut les chiffres. Et d'ailleurs, comment j'en suis même venu à. Enfin, j'ai écrit en fait une timeline de l'univers, mais j'utilise très peu. C'est-à-dire que du coup, dans certains suppléments, cette timeline est même présentée comme n'étant pas du tout sûre et étant possiblement fausse. Parce que c'est pareil, faire des repères chronologiques de dates et tout. Ça pose aussi pas mal de problèmes dans le sens où on va rencontrer des problèmes de cohérence éventuellement, des choses comme ça. Donc bref, je suis plutôt tendance à me concentrer sur ce qui est original et aussi j'ai un problème avec ce que j'appelle le lore géographique. C'est-à-dire, bah, en fait, tel PNJ, telle faction, telle créature, tu peux le rencontrer que dans cette ville. Ou dans cette région qui est potentiellement peut-être à 8 000 km de là où les PJ sont actuellement, quoi. Ce qui fait que des fois on peut avoir des aspects de l'univers qu'on voudrait bien mettre en action, et en fait c'est juste pas possible parce que c'est géographiquement trop éloigné des PJ. Et donc du coup, bon, après il y a un supplément Milvaux qui s'appelle l'Atlas où il y a quand même un peu de géographie. Du coup, il y a de la géographie, il y a des pays et tout. Mais c'est pareil, la plupart du temps, j'utilise pas cet Atlas. Et par exemple, si on prend une faction, par exemple, je sais pas, les Sarcomanciens, anciens, bah, que tu ailles dans une grande ville de Milvaux ou que tu ailles dans un petit patelin, hein, t'as toujours une chance de rencontrer un Sarcomancien ancien. Après, ils ont peut-être pas le même look, pas la même organisation si c'est dans une grande ville, dans une pays ou dans un tout petit bled. Enfin, pareil, les goupils, les hommes renards, tu peux en croiser à n'importe quel endroit de Milvaux, quoi. Ils sont pas circonscrits à une zone spécifique de la map. Et ça, en fait, du coup, supprimer les informations géographiques, ça permet de rendre mobilisable beaucoup plus facilement ce qui fait l'originalité du lore, à mon sens, c'est-à-dire ses factions, ses créatures, ainsi de suite. Voilà, c'est ce que j'avais à répondre sur cette petite question.
Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté qui est un peu dû, enfin, je sais pas, c'est peut-être ma perception des choses, hein, parce que bon, je vais être transparent, j'ai déjà joué à Milvaux et pas mal discuté avec Thomas. Est-ce que c'est pas nous non plus à une espèce de nature de l'univers, dans le fait que t'as pas mal de notions dans Milvaux, même si t'as un atlas effectivement, hein, qui sont de manière relative assez floue, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté personnelle justement de flouter un peu les lignes, parce que par exemple, il y a l'oubli, il y a l'égrégore, il y a des éléments qui font qu'en réalité, même pour les joueurs, déjà tu m'as parlé, tu me disais qu'il y avait une co-construction de l'univers, notamment sur un GN ou quoi par exemple. Et en plus, il y a une espèce de côté où autant il y a des choses qui sont marquées, autant j'ai eu le sentiment que tu n'avais pas envie de figer certains éléments non plus. Je sais pas si j'ai dit une bêtise ou pas, mais...
T'es tout à fait dedans, mais en fait c'est un peu le fou la poule, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments de la métaphysique de l'univers, comme par exemple l'oubli, ou l'égrégore, le fait que le monde soit assez magique, qui peut justifier effectivement que la définition de l'univers, sa timeline, sa géographie soit assez floue, mouvante et tout, un peu comme une espèce de monde sans réalité très, très stable. Ça, en fait, c'est aussi, entre guillemets, ça permet juste de donner une justification narrative à un dispositif qui en fait qui est ludique, qui est de vouloir d'une rendre facilement mobilisables les éléments originaux de l'univers, et puis également permettre, comme tu l'as précisé, à la table de s'approprier l'expérience de jeu, quoi. Donc voilà, c'est un peu le fou la poule, quoi. Bon, je vais utiliser l'univers, enfin je vais tordre un petit peu la présentation de l'univers pour justifier des parties pris en fait qui sont purement ludiques.
Ok. Alors après, on en reparlera peut-être plus tard dans une autre question, parce que j'ai vu les questions. Hein. Mais en fait, moi je trouve que, en fait, on en reparlera même plus tard. Hein. C'est une dernière question, donc on reviendra sûrement là-dessus. Mais moi, je trouve quand même que c'est une question de cohérence globale, en réalité. C'est-à-dire que, par exemple, moi, personnellement, hein, moi, tout ce qui va être carte, timeline, chronologie, non seulement je suis assez fan, mais en plus, s'il n'y en a pas, en tant que MJ, hein, pas en tant que joueur, je me sens assez vite perdu. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de repères relativement stables. Et dans tout univers, hein, que ce soit un roman que je lis, dans un univers partagé, un univers transmédia. Moi, je passe beaucoup de temps parfois à faire un travail de chronologie, à me dire, je l'avais fait pour The Witcher, par exemple, dans les romans The Witcher. J'avais essayé d'élaborer une chronologie qui est plus ou moins bancale, hein, parce qu'il n'y a pas de date. Et justement, je pense que c'est une manière de voir. Hein. C'est-à-dire que moi, effectivement, c'est pas que je suis plus carré que les autres ou quoi. Hein. C'est que j'ai besoin d'avoir une structure carrée pour pouvoir être libre. C'est paradoxal, hein, parce que on y reviendra certainement aussi, mais j'ai l'impression qu'aussi beaucoup de joueurs, et de MJ d'ailleurs, hein, peut-être plus les MJ que les joueurs d'ailleurs, peuvent se sentir corsetés par un univers qui est trop rigide, on va dire. Moi, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que moi, en réalité, je considère plutôt que je vais être plus libre dans un univers qui est un squelette qui tient bien. Tu parlais notamment de la géographie. La géographie, tu me disais, oui, il y a des factions qui sont pas délimitées à un seul endroit. Autant il faut faire attention, à mon sens, à un côté catalogue, c'est-à-dire à tel endroit, il y a telle créature, telle créature, telle créature, telle créature, et nulle part ailleurs. Autant je considère que la cohérence géographique a une importance. C'est-à-dire, par exemple, si on est sur un univers Medfan, classiquement Medfan, hein, donc Medfan européen, hein, c'est ce que je veux dire, quoi. La dominante du Medfan, on sait que les peuples voyagent pas facilement, qu'il y a des échanges qui sont certes ponctuels avec des marchands, des diplomates, des voyageurs, hein, mais qu'en dehors de ça, les peuples sont assez limités à un territoire. C'est-à-dire qu'en réalité, je prends l'exemple de The Witcher typiquement. The Witcher, il y a les Ophiri. Les Ophiri vivent loin au sud, hein, voilà. Ils ont un blocage par une espèce de tempête, une espèce de maelstrom au milieu de l'océan. Donc il y a des gens, il y a les Ophiri qui viennent sur le continent. Le continent, c'est l'univers de The Witcher, mais ils sont peu nombreux. Ce sont des marchands, des diplomates, des voyageurs. Et donc en fait, t'as une espèce de, je sais pas comment appeler ça, t'as une espèce de découpage. Je vais pas dire ethnique, mais ethnique c'est un peu un terme barbare, mais enfin voilà, un découpage ouais, géographique qui fait qu'en réalité, bah, même si les peuples se croisent, même si le voyage reste possible, en réalité ça reste minoritaire. Alors évidemment, il y a des univers où il y a la téléportation, des portails, bon là c'est très différent. Voilà, je parle d'un univers où ces choses-là sont limitées et où en fait, même si les gens voyagent, le voyage prend des jours, voire des semaines en fait. Et donc ça permet, à mon sens, une espèce de cohérence géographique qui, pour moi, dans laquelle je me retrouve. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais voilà, sur la cohérence géographique, sur les peuples, machin, enfin voilà.
Ouais, en fait, il y a deux choses qui peuvent aller dans ton sens. C'est que, en fait, ce que tu décris, le fait d'être précis, le fait aussi qu'il y ait des contraintes, ça va créer ce qu'on appelle la solidité du monde fictionnel. C'est-à-dire que ça va renforcer l'effet de réel, en fait. Et paradoxalement, comme tu le dis toi-même, ça va aussi créer des opportunités d'action. Et également, je dirais que ça peut être récompensant, en fait, pour les joueuses. C'est-à-dire que s'il faut que tu te tapes... 2 mois de voyage pour aller à la rencontre de tel peuple, ben, quand tu as joué ça et que tu vas effectivement rencontrer le peuple, tu te sens vraiment récompensé, en fait, de tes efforts. Tandis que si ce même peuple, en fait, il est présent à tous les coins de rue, tu ressens aucune récompense, en fait, de le découvrir, tu vois. Donc, en fait, c'est-à-dire que l'univers, quelque part, il va résister à l'exploration. On va pas les secrets de l'univers, sa diversité, ses spécificités, tu vas pas y accéder de façon gratuite, ça va pas te tomber tout cuit dans le bec. Tu fasses des efforts fait du voyage, de l'exploration, mener des enquêtes, tout, enfin, plein de trucs et tout, quoi. Et donc, d'une certaine façon, qui dit résistance, dit sentiment de récompense, d'accomplissement, quand tu vas effectivement accéder à des trucs un peu exotiques de l'univers, quoi.
Alors, sur ce point, moi, je l'ai vu récemment dans une partie d'Actual Play. Je vais pas faire de pub, mais bon, voilà. J'ai l'impression que beaucoup de parties se basent dans un pays, dans un lieu ou un ancrage territorial. En fait, pour moi, il y a deux grands types de parties. Bon, j'aime bien faire des catégories à l'emporte-pièce, hein, excusez-moi. Il y a la partie, on va dire, voyage. Tu vas te balader ou ton personnage va ton groupe de PJ va se promener dans un territoire. Ce qui demande, pour moi, de créer une raison. Pourquoi ils voyagent? Pourquoi ils s'installent pas alors qu'on sait aujourd'hui que bonne partie de l'humanité, hein, pas toute, mais est plutôt sédentaire, a plutôt un ancrage territorial. Alors, il y a des nomades, hein, il y en a toujours eu. Il y a des peuples nomades, hein, évidemment. Mais il y a quand même tension vers la sédentarisation. Voilà. Parce que l'agriculture, l'élevage, voilà. Parce que aussi création d'enfants, hein. Création d'enfants, reproduction. Et pour un enfant, bah, un enfant, on sait que les trois premières années, il est dans un état de, pas de faiblesse, mais de dépendance. Et que donc, un enfant, si on veut faire élaborer une société, ça me paraît presque parfois plus simple en réalité de dire, bah, pendant 3 ans au moins, voire plus, hein, parce que 3 ans, l'enfant est toujours pas autonome, hein, on va s'ancrer dans un territoire, on va rester là. C'est le cas de vampires, justement. Vampires, on sait que les vampires sont plutôt des créatures urbaines. Et en général, ils vont rester souvent dans une grande métropole pour se nourrir, pour solidifier leurs influences, pour solidifier leurs contacts. Moi, j'ai fait beaucoup de parties dans qui vampire, sont quand même très localisées.
Voyage, c'est assez dangereux de voyager en tant que vampire, quoi, parce qu'il faut que ce soit des ghouls, ouais, qui gèrent en transfert. Une fois, à Vampire Dark Age, on avait envisagé de voyager pas très loin, mais genre, tu vois, à 200 km, tu vois, au nord du pays, un truc comme ça. Et le MJ nous a exposé toute la difficulté que ça représentait. On a laissé tomber, en fait. On a dit non, bah, en fait, c'est trop dangereux, quoi. Ouais. Ne serait-ce qu'à être à la merci, en fait, de ces ghouls, de l'efficacité, de la loyauté de ces ghouls pour pouvoir se changer d'endroit, c'était un gros, gros problème, quoi.
Ouais. Alors, les ghouls, c'est des serviteurs humains qui ont du sang de vampire dans eux. Donc, ce sont des espèces de créatures mi-humaines, pas mi-vampire, là je simplifie à l'extrême, hein, mais oui, effectivement. Alors après, les vampires, c'est un cas particulier parce qu'il y a le soleil. Mais il y a comme des vampires qui voyagent. Hein. Il y a le PNJ Beckett, dans le journal Le Beckett, qui voyage dans le monde entier, surtout en avion, en jet privé sécurisé, mais pas que. Il y a aussi les gangrels, qui sont des nomades, un clan, c'est un grand ensemble de, on va dire, une famille de vampires qui est liée par son ancêtre commun. Il y a les gangrels qui voyagent, bon, voilà, mais globalement, effectivement, le voyage d'un vampire est limité pour la très bonne raison que dit Thomas, parce qu'il y a des limitations qui sont principalement dues au soleil, au changement horaire, au cycle du soleil. Mais même dans d'autres jeux, j'ai l'impression que souvent, par sécurité aussi, hein, beaucoup de MJ vont préférer mettre leur partie, c'est essentiellement le cas en one shot, mais pas que, hein, même en campagne, ça peut arriver. Dans une grande ville, on vous met la carte de la ville, on vous dit il y a tel quartier. La ville est gigantesque, donc la campagne en soi ne suffira peut-être même pas à explorer toute la métropole. Et parce que même dans un univers Medfan ou quoi, le voyage, il faut le gérer. Il faut le gérer, même en SF, hein, c'est-à-dire que le voyage, ça veut dire prendre un vaisseau, ça veut dire passer par des failles. C'est une élaboration. Alors on peut l'ellipser, on peut dire bon bah voilà, vous partez d'une planète, vous arrivez sur une autre, voilà. Mais le voyage, quel qu'il soit, dans un univers de l'imaginaire en général, me semble toujours porter une charge de pas de gêne, mais d'un certain danger. Alors on peut éliminer complètement le voyage, hein, mais même à niveau, le voyage n'est pas anodin, il me semble, hein, Thomas. C'est-à-dire que le voyage, ça veut aussi dire des dangers, ça veut aussi dire gérer la survie, gérer sa bouffe, gérer son eau, gérer les monstres, gérer les horlats, tu vois.
Ouais, ouais. Donc, oui, du coup, moi, c'était intéressant d'explorer cette tension entre sédentarité et voyage. Je crois pas qu'on soit pour interdire le voyage, mais je pense que c'est intéressant de proposer une résistance et que les PJ ne voyagent pas sans raison et tout. Je pense que du coup, la récompense du voyage, bah, c'est de notamment découvrir d'autres aspects de l'univers, quoi. Si tu veux bien, on va passer à la deuxième question sur l'exhaustivité. C'est un peu, en fait, Alors, certains univers sont tellement gros. C'est-à-dire que, en fait, donc toi, par exemple, tu connais beaucoup le monde des ténèbres. Je sais pas si tu as lu tous les suppléments ou si tu les as juste en...
Alors, je sais pas si un être humain normalement constitué peut lire tous les suppléments. C'est-à-dire que déjà, le WOD, juste une petite remise en contexte, hein, dans les anciennes éditions, j'ai pas compté, mais t'as à peu près, tu dois avoir à peu près 1000 suppléments. Hein, donc c'est quand même très compliqué de tous les lire.
C'est une dinguerie absolue.
Ouais, t'en as beaucoup qui sont en anglais. Si on parle juste de Vampire la Mascarade, sur toute édition confondue hors V5, parce que la V5 a rajouté une vingtaine de suppléments, hors V5, on est sur une centaine, 200, 150, 200 suppléments, à peu près.
Tu les as lus, les 100 suppléments là, de Vampire ou...
Non. Alors après, il y en a beaucoup qui sont vraiment très particuliers sur un seul sujet. T'as beaucoup de suppléments de contexte, les By Night, dont je parlais tout à l'heure. T'as quelques scénarios et compagnie. Donc, en fait, on va dire que t'as un corps, enfin un corps, CORE et corps CORPS. T'as un corps que moi je considère important à lire. Un corps qui est quand même composé déjà rien que d'une dizaine de suppléments. Hein, voilà. Mais pour moi, si tu veux être. Attention, je n'ai pas de jugement de valeur, hein, mais si tu veux être pas un bon MJ, mais un MJ complet, c'est-à-dire maîtriser ton sujet, pas parfaitement, mais le maîtriser de manière solide, voilà, il faut lire une 5, 6, voire une dizaine de suppléments, quoi. Voilà. Même plus que ça, parce qu'il y a les clan books, mais les clan books, Dieu merci, la V20 a fait le travail, enfin, travail salutaire. Et aujourd'hui, les clan books, t'as pas à lire 13 clan books, parce que t'as 13 clans dans Vampire. Aujourd'hui, le secret des clans en V20 suffit largement, hein, les 13 clans sont abordés, et c'est une synthèse. Donc, voilà, qui fait un travail excellent, hein. Donc, secret des clans suffit, en V20 pour jouer les clans. Voilà. Mais non, j'ai pas lu les 100 suppléments, mais par contre, je suis en travail, et je lis des passages, je lis des extraits, j'ai aussi, par chance, aujourd'hui, on est au 21e siècle, heureusement, il y a Internet, donc il y a aussi les gens qui répondent à vos questions sur des Discord, il y a aussi les wikis, vive les wikis, moi, les wikis, ça me sauve la vie, hein. Mais pour tous les jeux, hein. Par exemple, je pense aussi à L5K, qui a un lore qui est gigantesque, hein, pareil, avec une centaine, voire 200 suppléments. Il y a des wikis qui recensent tout ça, alors qu'ils sont pas parfaits, hein, c'est pas de l'officiel, c'est du fan-made, mais les wikis sont quand même assez carrés en général, ils peuvent permettre d'avoir, je sais pas s'il y a un wiki pour Milvo, mais voilà, le wiki, il dé potentiellement pour Milvo, voilà, je sais pas si c'est un travail collaboratif ou pas que t'as mis en place avec tes joueurs, peut-être. Ou...
À une époque, on avait ouvert un wiki, mais on a jamais remis dedans, donc le projet est tombé à l'eau, le site n'existe plus. Peut-être un jour, mais bon, actuellement, j'avoue que je me concentre plutôt sur l'élaboration d'une espèce de jeu encyclopédique qui s'appellera Biomass, et dans lequel il y aura au moins un glossaire, quoi. Donc, ça pourra un peu aider. Ouais, bon, bref, toujours est-il que t'as sûrement au moins. T'as quand même déjà une connaissance assez approfondie, t'as lu peut-être au moins ce que t'appelles le cœur, c'est-à-dire. La grosse dizaine de livres qui seraient a priori indispensables si on veut être un MJ un petit peu exhaustif de Vampire. Et avant de te poser la question, je vais en parler, je vais te donner mon propre ressenti histoire d'être un peu clair. Moi par exemple, je connais bien Lovecraft, le mythe de Cthulhu, j'ai lu tout Lovecraft, j'ai lu aussi pas mal de continuateurs de Lovecraft, enfin, tu sais, il y a pas mal d'autres écrivains qui ont écrit dans le mythe de Cthulhu, quoi, donc je connais quand même bien. En plus, comme j'ai été MJ de l'Appel de Cthulhu, quand tu lis l'Appel de Cthulhu, tu as accès à l'espèce d'encyclopédie qui représente les grands anciens, donc les infos que je connaissais par la littérature, elles me sont présentées de façon synthétique, avec des illustrations qui m'ont fixé, en fait, dans ma mémoire, un peu c'est quoi les grands anciens, tout ça, machin. Et du coup, je me rappelle qu'une fois, j'ai été PJ sur un scénario de l'Appel de Cthulhu. Et c'était un peu un scénario Luna Park du mythe, quoi. C'est-à-dire, c'était une maison hantée, mais il y avait vraiment tout un tas de créatures du mythe qui n'avaient rien à foutre ensemble. Le MJ prenait la peine de ne pas les nommer. Mais en fait, rien qu'avec leur description, moi, j'étais capable de dire, ça, c'est une chose rare, ça, c'est un sombre rejeton de Shub-Niggurath, ça, c'est une maigre bête de la nuit. Et en fait, si tu veux, j'ai eu un sentiment de... Ah bah en fait, être PJ à l'appel de Cthulhu, c'est plus pour moi. C'est finito. Parce qu'en fait, ça devient plus juste... C'est juste le jeu du quiz, devine quelle créature du mythe le MJ te présente et tout. Et en fait, il n'y a plus du tout de, mystère, tu vois. Donc, pour répondre à... En fait, c'est ça, la question, c'est... quel plaisir y a-t-il encore quand on connaît tout l'univers ou quand on en connaît une grande partie? Est-ce qu'il y a encore un plaisir? Bah, par exemple, dans ce cas précis, dans mon cas précis, cette expérience précise, bah, en fait, je me disais, bah non, c'est plus intéressant de jouer à Appel de Cthulhu parce que je connais trop l'univers. En tout cas, en tant que PJ, c'est finito, quoi.
Alors, c'est une question... Vas-y, excuse-moi, Thomas. Vas-y.
Bah, du coup, de ton côté... je découperai déjà la question en deux. C'est en tant que... Est-ce que toi, tu peux encore être PJ à Vampire? Ou est-ce que tu as l'impression, t'as peur de peut-être, par exemple, connaître mieux l'univers que le MJ? Ou juste plus être surpris, en fait? Et est-ce que, en tant que MJ, tu vas encore avoir ton plaisir, sachant que finalement, t'as déjà une connaissance un petit peu exhaustive du truc et tout? Enfin, est-ce que le fait d'avoir déjà tout absorbé en tant que lecteur, que tu as encore un plaisir en tant que MJ, ou est-ce que finalement c'est finito également, quoi?
Alors c'est une question très dense et très intéressante parce qu'on me l'a souvent posée. Il y a plusieurs notions là-dedans. La première notion, c'est déjà, je pense que tu peux pas connaître exhaustivement un univers. Voilà.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire que moi, je vais parler encore une fois du WoD parce que c'est l'univers que je connais le mieux. Le WoD dans un sens très large, c'est-à-dire pas que Vampire. Le WoD, bon, je ne vais pas citer tous les jeux, mais en gros, le WoD, c'est à peu près 5 ou 6 grandes gammes qui abordent toutes les créatures surnaturelles du WoD. Donc, il y a Vampire, il y a Garou, il y a Fantôme, il y a Changelin, donc Fée, on va dire. Il y a les Chasseurs, il y a les Démons et il y a les Mages. Voilà, j'en oublie certains, excusez-moi si j'en oublie certains, voilà. Après, il y a aussi les momies, etc., mais les momies, c'est très minoritaire.
Je me permets un tout petit insert sur cette notion que tu as dit qui est intéressante, qui est qu'on ne peut pas connaître de façon exhaustive. Moi-même, en tant qu'auteur, par exemple, sur Milvaux, je ne connais pas exhaustivement l'univers de Milvaux. C'est-à-dire que j'ai pris plein de notes, et en fait, j'ai oublié 90% de mes notes, tu vois. Donc, je ne connais pas exhaustivement l'univers dont je suis pourtant l'auteur, quoi.
Ouais. Bah oui, justement, d'ailleurs, il y a là-dessus aussi, je fais un petit insert rapide. George R. R. Martin, qui a créé donc la saga Song of Ice and Fire, une chanson de la glace et du feu, plus connue en France sous le nom du Trône de Fer, lui-même, soit c'est l'âge, pardon, hein, mais soit il y a d'autres raisons, lui-même ne s'y retrouve pas, en fait. C'est-à-dire que lui-même n'a pas la connaissance de son lore. En fait, le mec fait appel à des fans qui, eux, ont fait une encyclopédie, voilà, parce que lui-même n'a pas réussi à mémoriser l'essentiel des informations qu'il a mis en place lui-même, hein, voilà. Il ne faut pas non plus oublier ça, voilà, effectivement, les auteurs eux-mêmes, parfois, petit relativisme, petite remise en situation, mais parfois, les auteurs eux-mêmes ne connaissent pas tout leur univers, donc c'est assez drôle, mais bon, voilà. Donc là, je reviens encore une fois au wiki. Je ne dis pas que les wikis sont exhaustifs, mais il y a une volonté de l'être, en tout cas. Il y a une volonté de l'être au maximum, autant que possible. Là, on est aussi sur une autre notion qui est l'intelligence collective. C'est-à-dire que, en gros, tout seul, tu vas pas pouvoir assimiler tout un univers, c'est quasiment impossible, sauf des univers resserrés. Par contre, tu as une communauté, tu as d'autres personnes qui, elles, sans être exhaustif non plus, hein, mais peuvent avoir accès à d'autres pans et donc compléter ta connaissance individuelle. Ça, c'est le premier point. Donc, moi, je suis pas du tout exhaustif sur le WoD. Je connais des gens qui le sont, mais même eux ne connaissent pas tout. Le WoD, on rappelle, hein, quand même, ça commence en 91, voilà. Il y a un arrêt en 2004 et ça reprend en 2011 jusqu'à nos jours, voilà. On a à peu près, je suis très mauvais en calcul mental, mais on a à peu près 30 ans d'histoire éditoriale avec une centaine d'auteurs différents, avec, je le disais tout à l'heure, avec à peu près 1000 suppléments différents. C'est possible sur une vie, hein, c'est possible, je pense, c'est possible, je suis même sûr que ce soit possible, sur une vie d'assimiler toutes ces infos et de s'en rappeler, mais c'est très compliqué, voilà. Donc déjà, il y a la première notion, moi, je le dis, hein, je pense qu'on ne peut pas être exhaustif. Voilà. La deuxième notion, c'est est-ce que je peux encore être joueur à Vampire? Alors, c'est compliqué, Mais c'est possible. C'est-à-dire que je connais pas tout. J'ai pas lu les scénarios et les campagnes. Voilà. Donc je peux faire les scénarios et les campagnes. J'ai beaucoup d'éléments secrets, effectivement, mais je les ai pas tous. Et donc là, il y a plein de notions qui se rentrent un peu en collision. Je vais avoir du mal à répondre synthétiquement à cette question, mais je vais essayer. La première notion, c'est que le MJ s'approprie toujours l'univers, systématiquement. Aucun MJ ne colle au lore à la lettre près. C'est impossible, déjà. C'est pas souhaitable non plus. Donc le MJ va s'accorder des libertés. Il va faire des changements, il va rajouter des PNJ. Déjà, rien que ça, en fait, les PNJ sont un outil du MJ pour agrémenter le lore. C'est-à-dire que les PNJ, tu vas toujours en créer d'autres en plus. Voilà. Et c'est les PNJ qui vont te permettre de découvrir d'autres aspects. Ça, c'est un premier aspect, les PNJ. Le deuxième aspect, donc, c'est le corps, l'univers de base, les secrets. Tous les secrets, déjà, ne sont pas connus par moi, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi la notion de dire que... Là, je suis un peu perdu. Il y a la notion de dire qu'il y a des secrets, en fait, qui, déjà, sont pas accessibles. Pour moi, il y a des livres, si tu es joueur, si tu les lis, c'est finito. Voilà. C'est-à-dire que tu auras toujours un intérêt. En fait, l'intérêt, il va se situer dans les marges. C'est-à-dire que tu as le métaplot, ce qu'on appelle le métaplot, donc la méta-intrigue qui, en général... je sais pas comment expliquer ce que c'est qu'une méta-intrigue, mais... je sais pas si tu peux m'aider, Thomas. Une méta-intrigue, tu vois ce que c'est ou...
Alors, une méta-intrigue, en fait, je dirais que c'est une intrigue qui a lieu sur l'échelle... c'est pas sur l'échelle d'un scénario, ni même l'échelle d'une campagne, c'est sur l'échelle de tout l'univers, voire de toute la timeline du jeu, quoi. Donc, il va y avoir des grosses lignes de force, et donc, par exemple, dans Vampire, il me semble que... je parle sous ton contrôle, bien sûr, hein, mais que genre on pourrait dire que la survenue de la GN, la prophétie de la GN, c'est un peu comment l'espèce de jeu aussi là, le comment il y a une espèce de partie d'échec entre vampires là sur des millénaires et tout, je sais plus comment ça s'appelle.
Djihad. Enfin, le djihad. Voilà, le djihad. Ouais.
Voilà le djihad, la GN. Il me semble que ça on pourrait dire que c'est le métaplot de Vampire. Il y a peut-être d'autres éléments hein, sans doute.
Ouais, bah c'est ça. En fait, donc, ce métaplot, cette méta-intrigue, déjà, t'es pas du tout obligé de jouer avec. Tu peux décider de jouer à Angers, à Nantes, dans une ville resserrée, dans une intrigue resserrée avec des PNJ que t'as créé de A à Z. Donc, moi, je disais, il y a les marges. Les marges, en fait, c'est, dans ma connaissance, aucun univers n'a tout créé. Voilà. Je prends l'exemple de Warhammer 40 000, la galaxie, enfin, les galaxies, parce qu'il y en a plusieurs. Sont gigantesques. Là, on est sur du space opéra, donc c'est encore autre chose. Enfin, du dark space opéra, c'est pas vraiment du space opéra, mais bon, voilà, on va pas partir sur les définitions de genre parce que là, on est fini. Mais en fait, les planètes, il y en a bien plus qu'un milliard, en fait. Donc, tu peux tout à fait choisir de te situer sur une planète spécifique où les mœurs sont un peu différentes, où les gens sont même pas au courant de ce qui se passe dans le reste de l'univers parce qu'ils sont reculés, qu'ils ont des routes commerciales qui passent pas par chez eux. Voilà. Et chacun va pouvoir, chaque MJ, chaque joueur va pouvoir s'approprier son univers propre dans les marges de l'univers. Voilà, dans des marges qui sont pas définies par le lore. Ça c'est donc il y a les PNJ et il y a les marges. Voilà. Et je vais compléter un peu sur les marges parce que c'est un sujet qui moi m'intéresse beaucoup. Moi par exemple actuellement j'ai joué une campagne V5, Fall of London. Moi je connais pas le lore de Londres. Je connais pas le lore de Londres, je connais pas les PNJ de Londres, voilà, et en plus je connais pas la V5, je découvre des choses, et encore aujourd'hui je découvre des choses sur le lore, parce que comme je vous disais, le lore est tellement gigantesque, même dans Vampire, hein, je parle même pas du WoD, parce que moi je connais juste Vampire, je connais très peu les autres gammes, mais déjà le WoD est gigantesque, et en plus de ça, Vampire est gigantesque. Par exemple, là on joue à Londres, moi j'apprends un truc sur un élément de lore, que je connaissais pas du tout, quoi. Par exemple un pacte qui a été signé en telle année, un pacte qui existe dans le lore, hein, qui est cohérent, qui est canon. C'est pas un élément rajouté du MJ, je le connaissais pas. Voilà. Et c'est aussi ça qui va m'intéresser, moi. je sais pas si je peux faire un aparté rapide, mais il y a une typologie des joueurs, il y a plein de typologies des joueurs. Dans la boîte à outils du meneur de jeu, qui est publiée chez Lapin Marteau, il y a une typologie resserrée, assez simple, avec les bâtisseurs, les bâtisseuses, pardon, les communicantes, les compétitrices et les exploratrices. Il y a une opposition relative entre les bâtisseuses et les exploratrices. Les bâtisseuses, elles veulent bâtir. Donc si tu leur dis l'univers, il est déjà trop carré, t'es enfermé dedans, les bâtisseuses vont être frustrées, parce qu'elles aiment construire et tout, ce qui les empêche pas de construire sur leur perso. sur leur perso propre, de construire leur background, machin, de s'inscrire un peu dans l'univers. Et là, peut-être que Thomas, tu pourrais me parler de ça un peu, du background, je sais pas si tu vois là, dans quelques, une fois que j'aurai terminé, c'est-à-dire de dire comment un PJ qui crée son PJ fait pour créer un background alors qu'il connaît pas assez l'univers. Ça peut être intéressant à explorer. Et t'as les exploratrices qui, elles veulent juste découvrir l'univers, en fait. Et moi, je suis plutôt une exploratrice, enfin, un explorateur, dans le sens où j'aime bien découvrir des pans que je connais pas encore. Et il y a toujours des pans que je connais pas parce que, comme je le disais, les deux éléments sur lesquels le MJ va pouvoir jouer dans un univers un peu vaste, c'est les marges et les PNJ. Voilà, je te passe la parole, Thomas. Sur le background et sur cette idée de marge, PNJ, comment on articule, voilà. Si ça t'intéresse.
Ouais, ouais. Ben, je pense que t'as bien répondu hein, en disant que pour éviter ce sentiment de satiété, bon bah déjà effectivement c'est de toute façon on peut jamais avoir une connaissance exhaustive, il y a toujours des marges à explorer. Peut-être aussi qu'on pourrait dire que un jeu de rôle c'est rarement uniquement un univers. Si on prend Vampire, t'as aussi en fait jouer les rivalités entre clans, comme tu l'as dit, découvrir des PNJ, que ce soit des PNJ officiels ou des PNJ inventés par le MJ. Il y a un peu tout le côté un peu ludique de Vampire avec les différentes combinatoires, avec les disciplines, tout ce qu'on peut faire avec les disciplines, et donc les situations en fait, c'est qui sont un peu micro-tactiques liées à Vampire, tu vois, ça n'a rien à voir avec l'exploration d'univers, mais machin fait une diablerie sur truc, ensuite il a utilisé cette discipline et machin et bidule, puis avec sa goule il a fait ça, puis du coup ça crée des situations, tu vois, il y a un aspect un peu plus, on va dire, ludologue, tu vois, de l'exploration d'univers, quoi, qui juste on fait des interactions, quoi, et les combinaisons sont assez infinies, quoi.
Les joueurs, par leurs actions et par leurs interactions, vont créer du drama et vont créer de l'historique, vont créer du scénario, vont créer de l'histoire, vont créer du jeu, en fait. Et ça existera toujours, même dans un univers qui est très défini, je pense.
Ouais, excuse-moi, en fait, du coup, ça me permet de boucler sur la notion de background, c'est ce truc de combinatoire, en fait. C'est-à-dire qu'un univers, c'est aussi des combinatoires. Bon, par exemple, typiquement, comme j'ai expliqué pour Vampire, là, avec les disciplines, les rivalités de clans, ceci, cela, les mécanismes de chasse, de diablerie et compagnie, quoi. Pour créer un background de personnage, quand on ne connaît pas l'univers, il y a plusieurs options. Bon, la première, par exemple, dans Milvo, c'est celle de base, c'est de créer un personnage amnésique. Comme ça, c'est réglé, quoi. Et sinon, l'autre option pour moi, c'est d'avoir des outils de création de personnages en fait qui vont te guider en fait, hein, qui font que tu vas créer un personnage canon alors que tu ne connais pas l'univers, quoi. Par exemple, des jeux comme Traveler, une création de personnages très très guidée. Je pense que c'est dans ce but d'avoir un personnage qui soit assez canonique. Par exemple. Moi, je me faisais tout un délire sur ce serait rigolo de faire un jeu qui soit que de la création de personnages, zéro roleplay, zéro aussi péripétie, juste on crée un personnage avec le background le plus fouillé possible. Là prochainement, je vais le faire pour Milvo. Alors, je vais le faire en solo, déjà pour au moins essayer la formule. Mais par exemple, Milvo, il y a plein, il y a vraiment beaucoup d'outils de création de personnages qui permettent de créer un personnage qui peut être vraiment très très complexe. Mais qui va forcément être canonique de l'univers, puisqu'en fait, tu fais que assembler des Legos qui sont fournis par le créateur, quoi.
On pourra peut-être, comme on parlait des personnages, on peut peut-être passer sur la troisième question et la deuxième partie. J'y pense, hein, ça fait une transition.
Deuxième partie, ouais, mais, tout à fait, ouais, ça fait une parfaite
mais, transition. Mais je vais juste terminer sur un truc, mais effectivement, ça va faire le lien avec la deuxième partie. Moi, j'ai des MJ, enfin, je connais une MJ notamment, qui me dit, bon, c'est une posture, c'est une posture que moi, je suis pas d'accord, hein, mais qui me dit que moi, il y a des gens parfois qui refusent bon excusez-moi j'ai employé un terme un peu méchant mais qui refusent les noobs, c'est-à-dire qu'en gros si jamais le joueur ou la joueuse ne connaît pas l'univers du tout, on va lui dire non en fait. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça, moi je suis pour l'inclusivité maximale, hein, mais effectivement on peut poser la question, ce qui va faire le lien avec la deuxième partie, comment on intègre un joueur ou un joueur qui ne connaît rien du tout à l'univers face à une table aussi où les gens connaissent, ou voilà. Si on a une table de full noob, il y a pas de souci. Ça va être la deuxième partie. Je vais laisser Thomas enchaîner sur l'exploration de l'univers par le jeu.